C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, on voyait hier dans la presse cette histoire de ce sans-abri qui est allé voler chez Dollarama pour manger. Deux fois, puis il s'est retrouvé finalement en prison. Il y a un imbroglio entre l'aide juridique puis la cour municipale, mais quoi qu'il en soit, la question, est-ce qu'on met en prison quelqu'un qui fait un vol à l'étalage? Luc?
Pas au Québec, en tout cas, pas souvent. Ça arrive quand il y a un cumul de vols. Si tu as dit la loi, c'est pour des vols d'un bien, il y a une valeur de 5 000 et moins, tu peux faire jusqu'à 2 ans de prison. Dans la vie, ça se passe pas comme ça. Pour qu'une personne se fasse mettre en prison, même pour quelques jours, pour vol à l'étalage, il faut qu'il y ait un cumul. Comme par exemple, ça fait plusieurs fois qu'il se fait attraper. On reconnaît en plus sur les caméras de surveillance qu'il a volé à répétition dans un magasin. Le gars est en bris de probation, par exemple. Pas des probations grosses, mais par exemple, il est supposé être en thérapie, en cure fermée. Il sort une première fois, il sort une deuxième fois. Deux fois, il fait outrage aux conditions qui ont été laissées. Il va finir par faire un peu de prison. Mais la moyenne des gens, tu voles, tu te fais pogner, tu t'en vas à la police, tu t'en vas à la cour municipale, tu fais pas de prison. Là. Notamment à la police, à la cour municipale de Montréal, il y a toute une série de programmes pour essayer d'éviter la prison, puis d'encadrer la personne pour le remettre dans le droit chemin, notamment des participations obligatoires à des formations. Alors, un gars qui va se ramasser en prison pour avoir fait du vol à l'étalage, c'est un cas très, très, très particulier.
Ben moi, quand j'ai vu cette histoire-là, je n'en revenais pas. Là. C'est une histoire immensément triste. Nos prisons sont pleines. Là. Je peux pas croire qu'on envoie des gens en prison pour un vol à l'étalage, surtout que c'est un vol qui est motivé par la faim. Puis je vais prendre quelques instants pour parler de ce pauvre homme parce que c'est un itinérant qui ne parlait ni français ni anglais, qui ne parle ni français ni anglais. Il comprend, selon ce que la presse a rapporté, il comprend seulement le tamoul. Il a volé, tu l'as dit, Paul, deux fois dans un Dollarama, un premier vol d'une valeur de 5 $ puis un autre vol d'une valeur de 54 $. Entre vous et moi, là, est-ce que tout ça justifiait que cet homme-là se retrouve en prison? Marquez que si j'étais un peu cynique, je dirais bien, il mange 3 plats par jour parce qu'il est emprisonné depuis le 16 février. Il a reçu une citation comparaître le 18 janvier qu'il n'a absolument pas compris. Puis finalement, les policiers se sont mis à sa rescousse puis l'ont arrêté comme un vulgaire voleur puis l'ont envoyé en prison. Puis tu l'as dit, Paul, il est en plus victime d'un imbroglio entre les avocats de l'aide juridique et la Cour municipale parce que les avocats de l'aide juridique ne représentent plus de clients à la Cour municipale du Québec. Tout ça pour illustrer le fait que, puis je le disais la semaine dernière, vendredi, nos itinérants, nos personnes sans-abri sont devenus au Québec, malheureusement, des parias. Et la judiciarisation de ce dossier démontre à quel point ce n'est pas la solution. Puis moi, je suis encore renversée. C'est ce que je comprends, c'est qu'il n'y a aucune personne dans tout le processus entourant cet homme qui a pris le téléphone puis qui a appelé une ressource adaptée à ses besoins. Moi, je ne comprends pas ça, les amis. Puis toutes les études qui ont été faites là, le démontrent, là, judiciariser ce type de cas. Là, on parle d'un sans-abri qui avait faim, mais ça voudrait aussi pour une mère de famille qui a faim puis qui vole pour ses enfants. Bien, tous ces cas-là, là, la judiciarisation de ces cas-là ne donne pas les résultats escomptés. En fait, c'est contre-productif, ça ne donne pas de résultats. Ça enlise, ça contribue à enliser ces personnes-là, les stigmatiser. Enfin, ça me dépasse que le système de justice soit confronté à ce genre de cas. Je ne comprends
mais
pas.
Mais c'est très rare. Moi, je ne me souviens pas de voir des cas de cette nature-là. J'ai vu, par contre, un commerçant, il y a quelques années, qui se faisait voler à répétition. Puis dans Hochelaga-Maisonneuve, en tout cas pas loin, centre-sud, là. Puis il en avait plein son casque. Et il y avait des caméras de surveillance. Et il a pris toutes les photos de ceux qui ont volé et il a mis ça dans la vitrine du supermarché. C'est une épicerie là, de quartier. Puis il a dit, c'est pas vrai, mais on me fait voler. C'était sa façon... tu peux comprendre aussi, là, parce que c'est pas facile quand tu te fais voler constamment. Puis tu te dis pas qu'il faut mettre le monde en prison pour des vols.
Mais c'est là le problème, Paul et Nathalie. C'est que, bien entendu qu'on est d'accord avec toi, Nathalie, cette fin de semaine, j'ai vu sur notre rue, il fait longtemps qu'il y a quelqu'un qui se promène, qui ouvre les portes de char qui sont ouvertes, qui sont pas barrées, puis qui fouille en dedans. Puis, tu sais, les voisins disent avoir trouvé la porte du... comment ça s'appelle? Là, du côté du passager, là, la porte, le petit contenant là, de... une porte, en tout cas.
Ah,
le coffre à gants. Bon.
Le coffre à gants
est ouvert.
C'est drôle, le petit contenant.
Mais c'est un jour de barrer le
pas d'auto, hein? Ouais, il n'y a pas d'auto, ça paraît.
Fait que là, le coffre...
Il y a l'affaire qui tourne, un volant.
C'est tellement drôle.
Fait que, toujours est-il que, tu sais, les gens trouvent les objets volés, qui auraient été laissés en arrière, etc. Mais je l'ai vu, la femme qui volait. C'est une madame, elle avait 8 manteaux, elle doit peser 80 livres quand elle n'a pas ses 8 manteaux. Elle grommelle quand elle marche, puis je dis, hey, fais, dégage, touche pas à la voisine, le tour de la voisine. J'enlève-toi de là. Puis elle s'est même pas retournée, elle continue de checker si les chars étaient ouverts. Tu sais, regarde, cette femme-là, là, est brûlée. Là, évidemment que ces personnes comme ça vont passer en dedans. Là,
ben on s'entend.
Sauf qu'à Montréal, un méchant problème de bombe, par exemple. Vous pensez que les vols d'auto, là, on en parle tout le temps. Essayez donc vol de bicycle, quoi. Il n'y a pas un cycliste...
Vélo électrique.
Ah oui, il n'y a pas un cycliste qui n'est pas fait voler 4 fois, là. Des vélos à 1000, 1200 et plus, et moins des fois. Mais ça, là, regarde, des bombes... Nous autres, on avait mis un système de poubelles au coin des rues, parce que les gens jetaient tout le temps leurs patentes au coin de la rue en se disant « Quelqu'un va bien finir par les ramasser. » Fait qu'on avait mis des poubelles, comme il y a en Europe, des grosses poubelles de 600 litres en plastique. « Jette-les tes affaires, on va ramasser la poubelle. » On en avait acheté 100. On les a toutes perdues. Il y avait un gars qui les prenait et qui les vendait aux commerçants à 50$. Je le connaissais, le gars, je l'ai vu, je sais où il habite. Il habite au coin de l'immeuble au coin de Brébeuf. Devant cet immeuble-là, il y avait à cette époque-là 200 vélos volés attachés à des supports à vélos ou à des arbres. Tout autour de l'immeuble, c'était plein de vélos parce qu'il ne veut pas les mettre dans son appartement si jamais que la police
fait ça.
Mais oui, mais c'est des bombes. Puis ces bombes-là, tu ne peux jamais ni les attraper, ni les pénaliser vraiment. Puis si tu le rentres en dedans, il va ressortir dans 3 mois. Puis regarde, les graffitis, c'est pareil, les tags. Il y a une règle qui dit que tu ne peux pas donner plus que 100$ de contravention à un jeune de 18 ans et moins. Bien, on a pogné des jeunes qui en avaient fait 80 pendant l'été, là. Et ça, c'est à la propriété, dommage à la propriété. Sais-tu combien ça coûte enlever 80 tags, puis ils sont gros, là? Cette petite délinquance-là, je ne dis pas qu'il faut la mettre en dedans, mais je peux te dire qu'on est totalement impuissant face à cette délinquance.
Il faut occuper nos jeunes. Là. Ça, c'est un défi là, pour les quartiers.
C'est des fois des jeunes de 40 ans, hein?
Oui, OK, on s'entend.
Oui.
Mais l'exemple, Paul, que tu donnais du commerçant qui a affiché la photo là, des voleurs, j'ai vu ça dernièrement chez Canadian Tire.
Ah oui?
Je suis sortie de... Oui, absolument. Il y avait des photos là, de 4-5 personnes. Là. Ça, c'est des gens qui ont été effectivement filmés par la caméra. On a pris une capture d'écran. Donc, c'est une façon pour le commerçant de se faire justice lui-même parce qu'effectivement, la police est plutôt impuissante. L'autre chose, il y a certainement au Québec des réseaux plus organisés de vols de nourriture. Parce que ça se vend sur Marketplace, là, de la nourriture. Ça, c'est un autre défi.
Ce qui expliquerait qu'il y a eu pour 1,8 milliard de vols à l'étalage au Québec. C'est ça qui est évalué. Là.
Puis depuis l'arrivée des caisses autonomes aussi, c'est devenu un
fléau. Beaucoup
de
vols à l'interne. Ça, on ne le dit pas fort, mais des employés qui volent.
Ah oui?
Oh, OK.
Oui, c'est une réalité, ça aussi.
D'accord. Les bétons.
Puis l'autre chose qui me fascine dans ton histoire, Luc, sur le plateau, il y en a des histoires sur le plateau, c'est incroyable. T'as toujours des histoires à bracadabrante. Non, mais comment tu peux, en 2024, laisser ta voiture à l'extérieur, les portes débarrées? Moi, je comprends pas ça.
Bien, c'est...
La négligence.
Ouais, négligence.
Bien là, écoute, la manière que tu parles, il y a plein de résidents qui laissent leur voiture dans leurs portes débarrées.
Une fois de temps en temps, oui.
Oui, mais écoute, puis il y a des policiers qui passent. Qui vont tester les portières,
J'ai eu une contravention.
Bon.
À Mont-Tremblant.
Hein?
Okay. À Mont-Tremblant.
Oui.
Bon. Hey, dans le parking de Mont-Tremblant, j'ai laissé une commune auto avec les portes débarrées. J'ai eu une contravention de 90$.
À cause du monde comme toi qu'on paye cher d'assurance.
Oui.
C'est comme. Non, mais t'sais, le gars m'écrit puis il se plaint. Il dit la police n'a pas d'autre chose à faire. Mais tu dis bon, tes portes. Tu vois pas qu'il y a un petit phénomène de vol d'auto de ce temps-là. Tu sais, t'as une Honda Civic, tu ne montes pas tes portes. Compte les heures avant qu'elles disparaissent. On va s'arrêter là-dessus. Au retour. Les 60 ans et plus, on vous veut sur le marché du travail. Québec vous tend la main. Restez assis à la job, s'il vous plaît. Puis on a donné 1 million au conseil du patronat pour expliquer aux entreprises comment faire.
La commission Normando-Ferrandaise.
La question est très simple. Est-ce que c'est vraiment utile, efficace de donner 1 million au conseil du patronat pour aller conseiller les entreprises afin qu'elles puissent garder ou attirer des travailleurs de 60 ans et plus?
Bon, utile, efficace, on verra. Mais n'empêche que ça peut être intéressant pour les entreprises qui ne savent pas trop comment, là... embaucher ou en fait qui connaissent pas les stratégies à déployer pour embaucher les travailleurs de 60 ans et plus. Mais ce qui est intéressant dans la nouvelle, c'est que le gouvernement a une attention, a prêté une attention particulière à cette réalité nouvelle qui est apparue sur le marché du travail pour les 60 ans et plus. Et je me faisais une réflexion durant la pause. Vous êtes exactement dans le profil recherché, les amis.
Ben oui.
Luc,
ben oui.
Avec tes 61 ans, si je ne m'abuse.
Oui, oui, oui.
Et Paul, 63, c'est bien ça.
Exact.
C'est jeune, hein? C'est jeune. C'est jeune pour prendre sa retraite, je trouve. Et puis le gouvernement a déjà annoncé un certain nombre de mesures, dont deux crédits d'impôt. Un qui favorise le maintien en emploi des travailleurs expérimentés, qui, lui, s'adresse davantage aux employeurs. Et un autre crédit d'impôt qui, lui, connaît un énorme succès. Le crédit d'impôt pour prolongation de carrière, ça, c'est vous autres, c'est pour les 60 ans et plus. Et je lisais, c'est la chaire en fiscalité de l'Université de Sherbrooke qui a analysé l'impact de ce crédit d'impôt. En 2020, il y a 375 515 travailleurs qui ont bénéficié de la mesure. Et collectivement, ça nous a coûté, en 2022, 382 millions. Et ce qui est intéressant...
Donc, c'est 1 000 1 500 $ par personne.
Exactement. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes. 55 % de femmes versus 45 % d'hommes. Et c'est un crédit d'impôt qui existe depuis 2012, imaginez. Le gouvernement a choisi une stratégie fiscale qui est différente de la France. Je vous en ai parlé souvent. La France a choisi, elle, de défiscaliser les heures supplémentaires. Donc, après un montant X, là, à partir d'un montant X, on n'impose pas les heures supplémentaires. Mais ce qui est intéressant dans le cas du Québec, c'est qu'avec la réforme du régime des rentes, bien, il y a d'autres mesures qui ont été confirmées. Par exemple, la possibilité de cesser de cotiser au régime des rentes pour les 65 ans et plus, qui touchent déjà leur rente, mais qui sont toujours sur le marché du travail. Une personne, maintenant, peut repousser à 72 ans, l'âge où elle commencera à recevoir sa régie des rentes. Puis, il y a aussi tous ceux et celles qui sont sur le marché du travail à 65 ans, qui ont petit revenu, mais ce petit revenu ne sera pas comptabilisé, en fait, fera en sorte qu'ils ne seront pas pénalisés lorsque la régie des rentes va calculer la rente auquel ils vont avoir droit. Alors, c'est des mesures qui font une différence. Est-ce qu'on peut faire plus? Moi, je l'espère. Et je ne sais pas s'il y aura d'autres mesures contenues dans le budget. Puis je vais terminer en disant qu'au Québec, en 2021, c'est quand même 54 % des 60 ans et plus qui étaient et qui sont toujours, j'imagine, sur le marché du travail. Et en Ontario, c'est 60 %. C'est un peu plus en Ontario, mais quand même, on fait bien, mais on pourrait s'améliorer, c'est sûr.
Pas sûr que ça va marcher. Moi, je suis bien d'accord qu'il l'essaye. Tu sais, bon, mais des affaires pour... Tu sais, il y a une adéquation problème-solution. Hein? Donc, on pense qu'on va manquer 1 million de personnes en 2030 parce qu'il va y avoir des prises à la retraite massives, là, les baby-boomers. Les baby-boomers, ça se termine en 1963-4-5 à peu près. Là. Bon, rendu là, d'ici 30 ans, ils sont tous à la retraite, dont nous. Et donc, là, il va manquer 1 million de personnes. Ça va aller en chercher combien? Bon, là, on a 30 entreprises qui ont réussi à retenir du monde. Il y a deux possibilités. Soit c'est des gens qui veulent travailler parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre leur retraite, ou c'est des gens qui avaient un travail intéressant puis qui continuent. Tu sais, l'âge de la retraite au Québec, c'est divisé en trois. Il ne faudrait pas juste se conclure qu'on prend notre retraite plus tard que les Ontariens, parce que c'est un peu ça le message sous-jacent. Si on prenait tous notre retraite à l'âge moyen des Ontariens, on aurait équivalent à 42 000 personnes de plus sur le marché du travail. Sauf que si tu regardes dans le détail, les employés de la fonction publique prennent leur retraite en moyenne à 62 ans. Les employés du secteur privé prennent leur moyenne en moyenne à 64 ans. Puis les travailleurs autonomes prennent leur retraite en moyenne à 68 ans. Alors là, c'est pas vrai que c'est tous les employés de la fonction publique, on peut penser qu'ils retourneront pas. Au contraire, ils comptent les jours où ils vont... peut-être quelques-uns, par exemple, dans l'enseignement, peut-être. Mais la plupart, tu sais, qui font même un cumul de leurs vacances pour devancer leur retraite de quelques mois, ce serait surprenant qu'ils retournent. Fait que tous ceux-là qui prennent leur retraite le plus tôt, c'est fort peu probable qu'ils reviennent sur le marché du travail.
Mais est-ce qu'ils peuvent revenir ailleurs? Ce que je veux dire, mettons que tu as travaillé pour une ville toute ta vie, puis là, tu as hâte de sacrer ton camp, puis t'encercler la date sur le calendrier. Ça veut pas dire que tu t'en vas t'asseoir puis te bercer, là.
Bon point. Beaucoup qui font ça. Beaucoup, beaucoup pompiers, policiers, puis même fonctionnaires, etc., qui se trouvent un deuxième job.
Les policiers, là, puis là, je vais me faire des amis, là, mais juste, on subventionne leur formation, on les fait travailler. Puis quand ils arrivent à 50 ans, 52 ans, ce sont les entreprises privées qui bénéficient de leur expérience.
Et ça va, ça monte où, hein, parce que l'ancien chef de la police de Montréal, M. Parent, est allé travailler pour les commissaires.
Oui.
Donc, c'est souvent... C'est fait, M. Delorme a fait ça aussi. Là, il a parti
dans... Mais ils font tout ça, là, ou à peu près. Mais ce que je veux dire, les policiers, là, je comprends que tu cours pas après voleur à 58 ans dans la rue, là, peut-être. Mais est-ce que ton expertise comme enquêteur peut pas être encore utile? Puis une fois, j'avais fait une conférence devant des policiers de la Sûreté du Québec et ils étaient pas bien contents du peu. Mais... Moi, je pense que ces questions-là, il faut aussi les poser parce que est-ce qu'ils partent trop tôt à la retraite?
Bien, c'est pas rare, là. Tu sais, Hydro-Québec, fonction publique, etc., des gens qui ont commencé tôt. Par exemple, à la ville de Montréal, ceux qui ont commencé travail d'été à 18 ans, sont tous à la retraite avant 50 ans. Fait que là, c'est pas vrai que tu t'en vas t'asseoir chez vous. Alors, ils partent des compagnies, ils partent des ci, des ça. Oui, ça, c'est vrai. C'est rare qu'ils reviennent dans leur poste, là. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont faire ça? Bien, au Québec, c'est en train de changer en 5, s'il vous plaît, les statistiques sur l'âge de la retraite. Hein. Avant, on était les cancres en termes de taux d'activité. Au Canada, on était dans les derniers, je me rappelle des années, on était autour de 50 %. Le taux d'activité, c'est vraiment les gens qui travaillent. T'sais. Le nombre de personnes qui travaillent sur le nombre de personnes de la population entre 16 et 60, la fin de la vie. Là. Et donc... Avant, on était les cancres. Maintenant, on est les troisièmes au Canada dans la tranche qui se termine dans la cinquantaine, 53, 50, 55 à 59 ans. On a 77,8 % du monde qui travaille. C'est du jamais vu au Québec. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde qui se sont mis au travail qu'avant.
Oui, puis on produit moins. Parce que l'autre enjeu, tu sais, c'est qu'on est plus nombreux sur le marché du travail.
C'est parce que tu l'as dit.
En fait, le taux d'activité est plus élevé, mais la productivité, on a encore du travail
mais
à faire.
Pourquoi tu travailles? Tu travailles parce que tu n'as pas le choix, souvent. Parce
souvent.
Que tes revenus sont pas... C'est mal planifié, puis t'as pas fait... Bon, bien, une sorte de raison, mais il y a une raison alimentaire, là. Pour que t'ailles ouvrir la porte chez Walmart, c'est pas parce que t'as le goût de voir du monde, nécessairement, là. Mais...
Exact.
Et l'autre raison, c'est que tu veux demeurer actif. Moi, j'arrête l'émission au mois de juin, mais j'arrête pas de travailler pour autant. Je vais travailler moins, peut-être, mais m'en faire autre chose. Mais...
Comme les vieux docteurs.
Oui. Mais c'est...
c'est un vieil animateur.
Des vieils animateurs. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que être actif, c'est une affaire. Mais je pense que de plus en plus, les gens veulent demeurer actifs pour les bonnes raisons. Là. C'est-à-dire, besoin un peu d'argent, mais aussi pour...
C'est peut-être là que le programme va servir à quelque chose, Paul, parce que...
Comme m'a dit une fois une auditrice, quand mon mari a pris sa retraite...
On voulait pas le voir dans la maison.
Je suis habitué à déjeuner tout seul. Je suis habitué de faire ma vie. Là. Je ne veux pas me heurter sur la chaise à chaque fois que je rentre dans la maison. C'est aussi des fois là, que c'est, ça fait partie
de... Mais l'autre, on parle de ceux qui sont sur le marché du travail à plus de 60 ans, mais un enjeu là, dont on n'a pas encore parlé, puis c'est une réalité. Il y a encore beaucoup de travailleurs qui décident de quitter ou de ne pas rester à cause des lois fiscales, justement. Parce qu'ils disent, si le crédit d'impôt là, est populaire, il y en a plusieurs qui disent, l'impôt vient me chercher à peu près tout ce que je fais comme excédent.
Ça vaut-tu la peine?
M. Blackburn, là, du Conseil du patronat, ce qu'il propose, lui, c'est que les 20 000 premiers dollars de revenus de travail ne soient pas imposés.
Oui, bien, il pourrait s'inspirer de la France. Mais j'ai déjà posé la question au ministre des Finances. Et j'ai dit, pourquoi vous ne faites pas comme la France? Bien, ce qu'il dit, c'est qu'au Québec, on a un système d'impôt progressif. Et si, par exemple, on décidait de ne pas imposer, de ne pas réclamer de l'impôt sur des heures supplémentaires, un nombre X d'heures supplémentaires, ce serait inéquitable pour les autres travailleurs qui, mettons, de 60 ans et moins, qui ne sont, tu sais, parce que heures supplémentaires ou pas, là, c'est le revenu global qui compte à la fin de l'année, là, lorsque tu paies tes impôts. Alors, on ne distingue pas les heures supplémentaires avec le salaire régulier.
Tu sais qu'en Europe, il y a une notion qui s'appelle le 13e mois. Ça permet de ne rien changer au taux d'imposition puis aux heures supplémentaires, à toute la patente, aux conventions collectives, mais tu rajoutes un 13e mois, donc qui n'est pas travaillé, mais payé pour certaines personnes.
Écoute, on verra le budget. On sait qu'il y a au moins 7 millions pour les Kings. Fait que ça, c'est déjà réglé.
C'est 23.